m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un film très singulier, un objet cinématographique hybride entre comédie romantique et mélodrame poétique. La chronique d'un amour hors norme, d'une force et d'une puissance peu commune et en même temps d'une grande fragilité. Un amour d'expatrié entre deux personnages polyglottes unis par une seule et même langue qui n'appartient qu'à eux. Devant la caméra de Romain Cogitor, Paul Ami et Olivier, Déborah François et Maria, le film se passe entre Taïwan et la France, entre l'Asie et l'Europe, entre passé et présent, entre le microscopique et le gigantesque, entre réalisme et onirisme. Il s'appelle L'autre continent, il sort mercredi prochain sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Déborah François.
Bonjour.
Votre personnage s'appelle Maria et quand démarre le film, Maria prend l'avion, Maria s'en va, Maria prend un nouveau départ ou Maria fuit ?
Maria fait les deux, mais je pense qu'elle essaye de se raconter comme on essaye souvent de se raconter dans la vie qu'on prend un nouveau départ. Et en fait, c'est vrai qu'elle fuit son manque d'inspiration parce qu'elle essaye d'écrire un livre et elle fuit la page blanche. Et puis c'est vrai qu'on la voit dans cette petite scène de départ. Je sais pas si elle fuit, mais en tout cas distribuer des je t'aime et des baisers à pas mal de jeunes.
Oui, parce qu'elle a une petite cour avant de partir. D'elle, visiblement, c'est quelqu'un qui a pas mal butiné.
Ah, c'est une femme d'aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'est une grande amoureuse, c'est une fille qui est éparpillée, et d'ailleurs elle le dit à sa mère avant de partir, moi je suis carpe diem, voilà, donc c'est son idée avant de partir.
Voilà, donc quelqu'un de très épicurien, elle part donc notamment pour écrire, mais elle est aussi guide touristique, et elle part à Taïwan, on l'a pas encore dit, et c'est dans le cadre de ce métier, Déborah François, que votre personnage va donc rencontrer Olivier. Où se passe la rencontre? Décrivez-nous l'endroit.
Alors, la rencontre se passe au fort de Kaohsiung, qui est donc un fort qui surplombe la ville de Kaohsiung à Taïwan. Je suis tombée amoureuse de l'endroit, de cet endroit qui surplombe la mer, qui est incroyable. D'un côté, en fait, on a la mer et si la caméra bouge, de l'autre côté, on a la ville et à la fois la luxuriance de la forêt puisqu'on est sur les hauteurs. Donc c'est un endroit singulier en fait, cette île de Taïwan où tout se retrouve un peu. On a la nature comme ça qui plonge dans la mer et à la fois l'ultra modernité de gratte-ciel.
Un endroit donc où les touristes se pressent et donc on peut rencontrer les touristes et leur guide et Olivier aussi. Et guide, comme le personnage de Maria. Et c'est en anglais que les deux personnages vont entamer la conversation et la poursuivre en néerlandais, puis en chinois, et enfin alterner les différentes langues. Extraits.
Where are you from?
From the Netherlands.
But you sound French. Where are you from, exactly?
Groningen. Oh.
Leuk je te ontmoeten. Hoe gaat het met u?
Goed, dank u. Spreekt u Nederlands?
Well, that's all I can say. Similar to German, though. Must be easy to learn.
要说英语的话，来亚洲干嘛？
Sorry?
You don't speak Mandarin.
I think it's your tones. I can't really understand you.
How long have you been learning for?
6 months.
Wow. In a year's time, you'll start to pick up the various tones. You'll see.
Okay.
So?
What?
Well, now is when you're meant to ask me what I'm doing this evening.
Evenings are complicated for me.
Do you have a girlfriend?
No, but I've either got basketball or studying my languages.
Too bad.
But wait, I should be able to find some time on the weekend.
Hey, 小姐，那边有个团，是不是你们的人？
抱歉，请您再说一次好吗？说慢一点。
我说那边有个团，是不是你们的人？是的，是的，是我的团，还麻烦您来找我。别客气。You
are bullshitting me. Your Mandarin is better than mine.
I told you it's your accent. You're not emphasizing the tones. Ça sent que t'es française. À plus.
Voilà, ça sent que t'es française, Maria, un peu piégée, un petit peu plus malin et beaucoup plus polyglotte qu'elle, hein, finalement, le personnage d'Olivier, puisque lui, il parle 14 langues, c'est impressionnant. Alors évidemment, à l'écran, cet extrait-là est sous-titré, alors même
oui,
si on est dans une radio francophone, j'ai quand même voulu diffuser l'extrait en entier, parce que c'est important d'entendre à la fois la musicalité de la langue, ou plutôt des langues, et c'est vrai que les langues sont vraiment au cœur du film et de l'histoire d'amour qui va naître, donc à partir de ce moment-là du film, Déborah François. Et c'est vrai que pendant toute leur relation, Maria et Olivier vont passer comme ça, presque instinctivement finalement, d'une langue à une autre. Ils parlent des langues ou ils parlent leur langue à eux, finalement?
Ben, finalement, ils vont finir par parler leur langue à eux, et c'est drôle parce que en réécoutant cette scène, quand en plus j'ai que le son de la scène, c'est une vraie scène de comédie romantique parce qu'il y a cette petite pique comme ça, il la pique, elle est vexée évidemment, et du coup elle va se prendre au jeu en fait, parce que ce garçon dont elle ne soupçonne pas du tout évidemment qu'il parle 14 langues, qu'il est à fond là-dedans, c'est un vrai geek des langues, si on peut utiliser cette expression. Et c'est vrai qu'ils vont trouver, au fur et à mesure, ils vont se chercher en fait sur les langues. Elle va toujours essayer de le rattraper, ce qu'elle a jamais fait pour un autre garçon. Ça va être un peu sa motivation, se dire, il a vraiment de l'avance sur moi. Moi qui faisais ma maline, je pensais qu'en parlant quatre langues, voilà.
C'est-à-dire que le jeu des langues fait partie du jeu de l'amour.
Oui, ils vont créer un truc qui n'appartient qu'à eux. Et c'est un peu où qu'ils soient dans le monde, ils vont pouvoir trouver une langue qui n'appartient qu'à eux. D'ailleurs, après dans le film, ils passent au chinois quand ils sont devant les parents d'Olivier pour essayer d'avoir une conversation privée. C'est le genre de choses qu'on peut faire, je sais pas, en anglais devant un enfant, pour qu'il comprenne pas qu'on parle des cadeaux de Noël ou quelque chose comme ça.
Alors c'est vrai que vous êtes impressionnants tous les deux justement à passer comme ça d'une langue à l'autre. Bon, l'anglais, vous le parlez à peu près couramment, ça c'est fréquent dans le monde du cinéma. Bon, le néerlandais, vous êtes belge, donc vous avez quelques notions déjà à la base.
J'avais des notions, j'ai repris, j'étais un peu rouillée, hein, je vous le cache pas,
oui.
Donc voilà. Mais j'ai repris quelques notions et c'est revenu assez vite.
Bon, pour le chinois, on imagine que c'est moins évident.
J'avais assez peu de notions.
Oui, donc il a fallu commencer par la base.
Par la base, et puis ce qui est particulier dans cette langue aussi, c'est qu'on peut pas, contrairement à beaucoup d'autres langues, se baser sur l'écriture, puisque c'est tout aussi étranger que les sons.
Alors vous avez fait comment ?
Et en plus, il y a des sons qui n'existent pas en français, qui existent en mandarin, donc c'est un peu difficile au début de les attraper. Donc j'ai eu pas mal de coaching et j'ai utilisé une méthode qu'on explique dans le film, justement, qui est la méthode des lieux, qui est une méthode de visualisation. Où on visualise un lieu qu'on connaît très bien et on range un son, quelque chose d'écrit, un élément dont on veut se rappeler dans ce lieu dont on se souvient très bien. Moi, en l'occurrence, c'était ma chambre et j'ai tout rangé dans une armoire où j'ai des paires de chaussures. Donc, j'ai associé chaque paire de chaussures à une phrase en mandarin.
D'accord. Donc, ça tombe bien parce que c'est le deuxième extrait du film qu'on va entendre. Donc, c'est Olivier qui explique à Maria justement cette méthode qui lui a permis aussi de mieux apprendre justement ces 14 langues différentes.
Il explique plus poétiquement que moi.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je change du mandarin.
Non, mais en vrai.
La méthode des lieux, tu connais pas ? Le royaume de la mémoire, tout ça ?
Non, c'est quoi ?
Ferme tes yeux. On est où ?
Au mémorial de Kaohsiung.
Exactement. Est-ce que tu le visualises ? Non, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Vraiment, c'est un petit peu... qu'est-ce qu'il y a derrière nous à 50 mètres environ ?
L'entrée du mémorial.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a devant nous en haut des marches ?
Les colonnes.
Ouais, il y en a combien ?
6 ? Non, 8 ?
Exactement. Tu vois, le lieu est inscrit dans ta mémoire.
C'est quoi le rapport avec le mandarin ?
C'est notre facilité à mémoriser des lieux et à utiliser ça pour retenir des données.
Je comprends pas.
Tu visualises mentalement un lieu. Tu vois ? Et ensuite, tu stockes par exemple du vocabulaire, des listes, des chiffres. Et après, tu t'y promènes mentalement. D'accord ? Et plus tu t'y promènes, plus que tu as stocké s'enregistre dans ta mémoire. Au début, tu utilises des lieux simples, mais après, tu peux construire des rues, des villes, tu vois, des royaumes tout entiers pour stocker tout ce que tu veux dans ta mémoire.
Ça a l'air tout simple, hein, effectivement, quand Olivier vous l'explique comme ça. C'est par la langue, c'est par le langage que vous entrez dans un rôle, dans un de vos personnages, Déborah François ?
Il y a de ça aussi, et puis moi je me suis rendu compte spécialement sur le mandarin, mais j'avais pu m'en rendre compte sur d'autres films où j'avais aussi parlé des langues étrangères, que ça modifie un peu la façon de jouer, en fait. Les intonations qu'on est obligé de prendre sont différentes. Par exemple, le mandarin fonctionne sur un système d'intonation, de ton, et c'est vrai qu'on a tendance tendance à changer de ton en français quand on parle. Si je m'énerve, je vais faire monter la fin de ma phrase ou la faire descendre, et inversement. Et c'est vrai qu'en mandarin, on peut pas faire ça, parce que si on change le ton de la fin de la phrase, on comprend plus ce que vous dites.
Donc c'est extrêmement perturbant aussi dans le jeu d'acteur.
Donc c'est perturbant, ça demande en fait vraiment de remettre ça en question et d'essayer de, par exemple, je sais pas, monter tout le ton entier de la phrase, mais pas de le faire varier à l'intérieur d'une même phrase ou d'un même mot. Donc c'est particulier.
Bon, et la mémoire qu'on évoquait aussi dans cet extrait, c'est évidemment très important pour la comédienne que vous êtes. Est-ce que vous avez là aussi une méthode justement pour apprendre, pour retenir votre texte?
Ben, il y a cette méthode. Ça, c'est vraiment quand il y a des choses de visualisation à faire qui sont sur un long texte. Moi, j'essaye de me raconter.
Pas seulement pour les langues étrangères.
Non, pas seulement pour les langues étrangères, pour tous les textes quand on a un... Bon, après, j'ai une bonne mémoire, donc c'est plus pour quand on a toute une page de texte ou plus, ou toute une pièce de théâtre à apprendre, ça peut arriver. De vraiment, visualiser, en fait, associer à chaque fois une image à un mot, à un texte. Si je parle d'oiseau, je vais visualiser un oiseau et je vais écrire une petite partie de texte ou quelques phrases sur cet oiseau. Et je vais fonctionner par association d'images. Donc ça peut être une des choses. Pour le mandarin, je me suis endormie chaque soir avec un casque sur les oreilles, avec le texte en mandarin et la traduction qui passait en fait dans ma tête, et je l'écoutais 30-35 minutes avant de m'endormir. C'est aussi une bonne méthode, on apprend en dormant.
Donc la mémoire, ça aide à apprendre une langue comme le mandarin, ça aide à apprendre un texte au théâtre ou pour un rôle au cinéma, ça aide aussi à surmonter les épreuves dans le film, et les épreuves, il va y en avoir dans le couple formé par Maria et Olivier. Olivier va affronter une leucémie, donc une maladie extrêmement grave, et c'est notamment en utilisant la mémoire des moments heureux que Maria va aider Olivier à progresser. Et on se rend compte vraiment de la force, de la puissance du lien qui existe entre vos deux personnages à travers cette épreuve. En fait, on se dit quand même que Maria, c'est un rock, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement fort.
Ça va devenir un pilier, mais moi, ce qui m'a intéressé dans le personnage, c'est justement le contraste, en fait, entre le début du film, ce début qui est un début entre deux jeunes gens, jeunes trentenaires qui voilà, imaginent la vie, imaginent un appartement, un enfant, un futur, et c'est cette fille justement qui au début a ce truc de d'éparpillement, où elle se croit pas capable, en fait, elle se croit même pas capable de croire en l'amour au départ. Donc elle commence à croire en l'amour et elle va devenir tellement forte que ça va devenir le pilier et la base de ce garçon. Ça va devenir la seule qui va vraiment se battre pour lui jusqu'au bout, plus loin qu'elle-même, en fait.
Mais c'est la relation qu'elle a avec Olivier qui la change, c'est Olivier qui la change, ou bien tout ça, finalement, elle l'avait déjà en elle dès le départ sans forcément s'en rendre compte?
Je pense qu'on l'a tous en soi, en fait, au départ. Je pense que c'est lié intrinsèquement à l'humain d'avoir une espèce de force en soi, pour peu qu'on n'ait pas eu cette force qui a été détruite par des épreuves qui ont été trop fortes dans notre vie. Mais je pense que oui, c'est la personne qu'on va rencontrer va être ce déclencheur, en fait. Je crois profondément à ça. Je pense pas qu'on ait une âme sœur dans la vie. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent déclencher ça. Mais je pense que c'est la rencontre de deux personnes qui va déclencher ça chez l'autre, et que ça va pas à sens unique. Donc c'est tout ce que lui donne aussi au début du film qui fait qu'elle se construit et qu'elle va déclencher en fait ce truc-là. Parce que dans les cas d'extrême urgence, finalement, on se connaît pas. On sait pas ce dont on est capable de faire. Et elle va se découvrir... des trésors cachés.
Alors cette force-là, c'est celle de Maria, votre personnage, mais c'est aussi peut-être celle de Déborah François, celle de l'actrice que vous êtes, puisque Romain Cogitor, dans le dossier de presse du film, je ne cite pas souvent les dossiers de presse, mais enfin, il dit des choses très intéressantes, et je voudrais que vous expliquiez un petit peu. Il dit « Déborah est une machine de guerre ». Vous reprendriez cette expression à votre compte ?
C'est marrant parce que c'est un truc que j'ai. C'est pas la première fois que j'entends ça, donc je sais pas comment je dois le prendre, mais oui, il y a un côté un peu bulldozer chez moi. On m'appelle le bulldozer belge.
D'accord.
Non, je rigole.
Mais c'est-à-dire que vous attaquez bille en tête, comme ça on peut pas vous arrêter.
Non, on peut pas m'arrêter parce que la vie est trop courte, quoi, et qu'en fait faut je pense, c'est bête à dire, mais il faut se battre pour ses rêves. Moi, mon rêve, c'est d'être comédienne. Mon rêve, c'est d'entendre que les gens, c'est un travail de tout le temps, en fait, d'entendre que les gens vont au cinéma et qu'ils vivent des émotions, finalement, en regardant un personnage certes que j'ai construit d'une partie, mais qu'on a eu la chance, qu'on a eu la confiance de me confier, en fait. C'est une confiance énorme de confier ça, surtout sur des histoires qui sont aussi, aussi subtiles et aussi difficiles à mener et où on peut pas, voilà, amener un jugement. Donc c'est une grande responsabilité, je pense.
Mais quand on dit machine de guerre, ça veut dire qu'il faut se battre contre les autres, faut se battre pour le film, faut se battre pour soi-même, contre soi-même?
Pour soi-même, contre le jugement et les idées reçues. Moi, je fais souvent des films qui sont aussi soit engagés, soit qui, moi, m'engagent en tout cas sur des sujets qui, de société qui me touchent. Et dans ce film, il y a l'histoire d'amour et il y a ce sujet de société. Donc oui, je pense qu'il faut pas prendre ça trop à la légère, même s'il faut amener de la légèreté dans le film. C'est un peu le paradoxe.
你是我沉睡的树形，你是那另一个钟，在我生命另一隅，月光隐没我的爱梦。Je pense que tu tombes avec moi.
月亮升起。
Est-ce que vous pouvez me dire dans quel pays nous sommes en ce moment ?
Dans quel pays ? Eh bien, peut-être sur l'autre continent, hein, qui sait. Alors, quel genre de directeur d'acteur Romain Cogitor est-il, Déborah François ?
Romain, on parlait, le moment de préparation du film a été assez long, en fait. Ça faisait longtemps qu'on voulait tourner ce film et que Romain s'est battu pour le faire. Et du coup, en fait, quand on est sur le tournage avec lui, c'est particulier parce que c'est lui qui fait le cadre. Donc on se retrouve souvent, surtout sur ce film où il a voulu nous filmer au plus près, on se retrouve dans des endroits assez restreints.
Oui.
Paul Amy, l'autre acteur, moi et lui. Et du coup c'est particulier, il parle assez peu quand on a commencé en fait la scène, on en a beaucoup parlé avant. Et du coup ça infuse et c'est marrant parce qu'il nous a dit souvent c'est dans les premières prises qu'il a trouvé les prises qu'il a voulu garder voilà au tournage, parce que plus on disait des choses et plus on essayait de voilà de rentrer dans quelque chose qui était peut-être plus joué ou plus avec plus d'intention, on s'éloignait plus des personnages.
Bon, il dit des choses comme très bizarres dans ses interviews aussi, Romain Cogitor. Il dit qu'il a travaillé avec vous de façon très théorique, presque mathématique sur le contraste au sein du couple. Mathématique?
Bah, Romain et moi, je pense qu'on s'est retrouvés sur le côté, notre côté un peu geek, un peu syndrome autistique tous les deux. Donc, c'est vrai que on parle peu, mais précisément. Voilà, on est deux grands cartésiens, je pense.
Voilà, donc il parle d'un travail sur la façon de parler, de bouger. Bon, là, c'est assez classique dans le cinéma, quand oui. même. Mais il parle aussi, alors là aussi, c'est très mystérieux, d'un travail sur la couleur des cheveux. Alors, je sais pas si là vous pouvez me donner quelques explications parce que c'est assez mystérieux.
On a travaillé sur la couleur des cheveux parce que c'est peut-être aussi mon côté machine de guerre. Je me suis opposée à la coupe radicale de mes cheveux qu'on voulait faire parce que j'avais d'autres projets aussi qui se passaient en même temps. Donc voilà, c'est un peu les aléas personnels de la vie d'acteur.
Mais c'est important, les cheveux dans le personnage de Maria.
Si vous dites oui à un réalisateur à un moment et que vous avez dit oui à un autre réalisateur au même moment, il faut un peu trouver un espèce d'entre-deux. Du coup, Romain s'est vengé sur ma couleur de cheveux.
D'accord, très bien. Bah, merci pour cette précision, Déborah François. Merci infiniment. L'autre continent, le film de Romain Cogitor avec Déborah François et avec Paul Amy sort donc sur les écrans mercredi prochain. Merci beaucoup.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis...
Le retour à la Terre. On est dans mon atelier café, également boutique, situé dans le 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin. Je m'appelle Corentin Brison, je suis potier céramiste. La première étape, ça va être de sélectionner la terre En l'occurrence, là, je vais choisir du grès, qui est la terre la plus dense et qui est parfaite pour des objets utilitaires. Donc là, la terre est déballée. Je vais maintenant couper un morceau d'environ 500 grammes, qui est la quantité de terre nécessaire à ma tasse. Je récupère mon morceau de terre et je vais venir le malaxer avant de m'installer autour pour enlever toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. La première étape, ça va être de coller la terre sur le tour. Maintenant, je vais venir vérifier qu'elle colle bien. Pour faire ça, je lance la vitesse du tour assez rapidement. Je vais venir mouiller mes mains et je vais venir appuyer sur la terre pour m'assurer qu'elle colle bien. Donc maintenant, sur cette base, je vais essayer de remettre toute cette terre parfaitement au centre du tour. Pour faire ça, je vais venir presser la terre sur le dessus et la maintenir avec mon autre main au centre. Il faut que mes mains ne bougent absolument plus. L'étape suivante, ça va être de commencer à travailler les parois de l'objet. Je vais faire en sorte qu'elles soient de plus en plus fines et donc l'objet de plus en plus haut. Et je vais venir faire une petite pince avec une de mes mains et presser tout doucement la terre sur sa base et l'emmener vers le haut. Je vais venir élargir l'intérieur de mon objet. Pour faire ça, je vais reglisser mon index à l'intérieur et, de manière progressive et délicate, tirer la terre vers l'extérieur et avec la force centrifuge, tout va s'écarter de la même manière. Il faut être très délicat. La terre, si jamais on vient la brusquer, elle prend en compte le geste qu'on vient de lui faire et elle se déforme, elle s'écroule, elle plie. Elle a besoin d'être vraiment traitée avec délicatesse. Et maintenant, avec un outil en bois qui s'appelle une estèque, je vais venir travailler la forme de l'objet. On peut, en fait, sur cette base-là, en faire un petit bol, une petite tasse. Là, je viens de décrocher l'objet du tour. Il va sécher quelques jours. Je viens de poncer l'objet afin de lui enlever mes traces de doigts, les petites irrégularités et lui donner un aspect vraiment tout doux au toucher. Maintenant, je vais laisser complètement l'objet sécher, c'est-à-dire une bonne semaine, afin qu'il n'y ait absolument plus d'humidité à l'intérieur. Une fois cette première cuisson terminée, j'obtiens un objet qu'on appelle un biscuit, donc c'est une terre brute, poreuse, et là-dessus, je vais pouvoir venir mettre un émail. Une fois émaillé, l'objet va retourner dans le four, à nouveau 24 heures, mais cette fois-ci à 1300 degrés. Là, je viens de sortir l'objet du four et il a exactement la couleur souhaitée, un petit blanc cassé. Ça fait 3 ans que j'exerce cette activité. Auparavant, j'étais dans la restauration. C'est ça également qui m'a donné envie de créer un petit coin café dans l'atelier pour qu'on puisse notamment y utiliser les tasses.
Aujourd'hui, j'étais...
Le retour à la terre.
Sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et cette semaine, dans le café gourmand de VMDN, Sarah Tisser, Marjorie Bertin, Morgane Moal et Alain Pilot. Bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
On parlait de geek tout à l'heure avec Déborah François. Vous nous emmenez visiter une exposition qui va peut-être donner quelques idées aux fans d'informatique, Morgane.
Et oui, ce n'est pas la chasse gardée des hommes. On ira à la Gaîté Lyrique à Paris pour l'exposition Computer Girl. Elle met à l'honneur les femmes d'aujourd'hui et d'hier qui ont marqué l'histoire du numérique.
Avec vous, Alain, un premier album que vous verriez bien millionnaire en termes de vente.
Sans doute parce que Marion Corrales, alias Mo Cashel, a emprunté son pseudo à l'héroïne du film Million Dollar Baby de Clint Eastwood, mais aussi parce que ce disque, Ma chère, mon sang, est très charnel et sanguin à la fois. Un opus où chacune des parties anatomiques de Mo Cashel livre leur histoire à travers ce disque. Chaque chanson est connectée au corps, un voyage initiatique.
Hommage avec vous, Marjorie, à un grand compositeur français récemment disparu.
Oui, Michel Legrand, Jean-François, dans la comédie Michel Forever, qui est mise en scène par Daphné Tesson et Stéphane Druet.
l'inventeur de l'art brut, exposé à Marseille. C'est avec vous, Sarah, qu'on va commencer, puisque le MUCEM consacre une exposition à Jean Dubuffet, un acteur majeur de la scène artistique du XXe siècle. Le nom de cette exposition, Jean Dubuffet, un barbare en Europe. Elle rassemble quelques 300 œuvres, objets, documents. Il s'agit donc, Sarah, de montrer à la fois son travail de peintre et d'écrivain, et puis ce que Dubuffet appelait ses prospections.
Oui, on s'intéresse notamment à ses recherches menées tout au long de sa vie sur ce qu'il a nommé, en 1945, l'art brut. Toutes ses œuvres et objets glanés dans les musées d'ethnographie, d'art populaire, ou encore dans les hôpitaux psychiatriques. Baptiste Brun est l'un des commissaires.
C'est quelqu'un qui a beaucoup cherché d'objets et d'œuvres qui étaient faites par des gens qu'il considérait comme indemnes de culture artistique. Et c'est ce qu'il a appelé l'art brut à partir de 1945. Ce que défend Dubuffet, en fait, c'est une conception de l'art horizontal, où il n'y a plus une hiérarchie verticale avec un art primitif qui serait en bas et puis un art civilisé en haut. Une conception de l'art héritée du 19e siècle. Pour le coup, il y a cette forme d'horizontalité où les choses ne sont pas équivalentes, mais elles sont comparables, elles montrent des moyens de faire, d'invention, etc., qui sont valables les uns les autres.
Et pourtant, l'art brut, on l'a souvent réduit à l'art des fous, ça.
Et c'est bien plus que ça. D'ailleurs, l'exposition le rappelle, dans une grande salle où tout ce qui pouvait intéresser Jean Dubuffet est rassemblé. Il y a, certes, les œuvres, par exemple, d'un Heinrich Anton Müller, interné en hôpital psychiatrique. Par exemple, l'homme à la goutte au nez, c'est un visage peint en noir avec des yeux exorbités. Mais on trouve aussi l'étoile aux couleurs vives de Joseph Crépin, plombier zingueur qui disait peindre sous l'influence des esprits. On trouve des outils décorés, une canne de Camargue, un masque provenant d'une vallée suisse, des dessins d'enfants, une stèle anthropomorphe d'Ukraine, enfin bref, des œuvres d'une incroyable diversité.
Effectivement.
Et à côté de toutes ces œuvres et objets, des courriers, des photos, qui nous montrent aussi à quel point ce chercheur inlassable était ordonné et méticuleux. Isabelle Marquette, co-commissaire de l'exposition.
C'est ça qui est impressionnant chez Dubuffet, c'est qu'il a un côté de prime abord un peu touche à tout. Et en fait, quand on entre dans ses archives, on voit qu'au contraire, il était extrêmement rigoureux. Il garde des copies des lettres qu'il envoie. Il faisait aussi des notes bibliographiques. Et puis évidemment, il y a toute sa documentation photographique de tous les objets qui ont pu l'intéresser, qu'il compilait en fait dans ses classeurs.
Quand on parle de correspondance, par exemple, il collecte les œuvres d'une dame internée en hôpital psychiatrique et il va demander au médecin une petite biographie.
Oui, c'est quelqu'un qui travaille avec des réseaux, en fait, très denses, avec des psychiatres, des ethnologues, etc. Et effectivement, il leur demande de l'information qui puisse éclairer la genèse des œuvres qui sont réalisées par ces gens-là. Parce que ces gens-là, tout le monde s'en fiche, peu ou prou, et lui, il veut leur donner un statut d'auteur, quoi. Il veut voir qui se cache derrière le fou.
Et ce qui intéresse plus que tout Dubuffet, Sarah, c'est ce qui est inclassable.
Exact. Il est par exemple fasciné par les aquarelles du Congolais Albert Lubaki, réalisées dans les années 30. En matière d'art d'Afrique et d'Océanie, ça l'intéresse bien plus que les statues africaines recherchées par les marchands d'art de l'époque. Baptiste Brun.
À l'heure de la domination coloniale belge, on n'attend pas d'un Congolais qu'il fasse de la peinture, qui est quand même l'apanage de la culture européenne dans l'esprit européen à l'époque. Et ça, que ce ne soit pas de la statuaire et que ce soit de la peinture, ça, Dubuffet, il retient.
De même, Jean Dubuffet se passionne par exemple pour des statues auvergnates en lave, comme des bornes avec de gros yeux ronds. Mmh. On les avait crues un temps venues des Marquises ou des Caraïbes. Elles proviennent en fait du Massif central, en France, ce qui permet à Dubuffet de dire, vous voyez, l'art primitif, ça n'existe pas. Ou alors, il est aussi à découvrir au cœur de l'Europe, et ça ébranle un peu des certitudes à l'époque.
Mais c'est un voyage en Suisse en 1945 qui va le lancer dans cette recherche tous azimuts.
Oui, depuis bien longtemps, Dubuffet, d'origine bourgeoise, s'intéresse à la culture populaire, au graffiti, aux arts de la marionnette. On découvre aussi une marionnette à gaines qu'il fabrique dans les années 30 au trait de sa femme, Lily Carlu. Mais ce voyage de 45, au cours duquel il rencontre des psychiatres et visite le musée d'ethnographie de Genève, eh bien, ça va être pour lui un déclic.
On ne peut pas s'empêcher de faire le rapport avec l'idée de d'année zéro. Ce qui se passe là en 45, c'est que finalement, la culture européenne, occidentale, se retrouve sacrément en crise par la compromission, par la question de la barbarie et autres. Et redéfinir un petit peu tout cela, quoi, critiquer cette culture, c'était un passage obligé. Et ça passait notamment par une réflexion sur la question de l'altérité en général. L'art brut, c'est une réflexion sur l'altérité notamment.
Une réflexion sur ce qu'est l'autre, sur ce qu'est l'art aussi. Du Dubuffet lui-même est à l'origine marchand de vin. Il a déjà plus de 40 ans quand en 1942, il décide de se consacrer à l'art. Et dans sa peinture, comme dans le tableau baptisé Affluence, fait de dizaines de petits personnages, il célèbre l'homme du commun, Baptiste Brun.
L'homme du commun, d'une part, c'est le destinataire idéal de sa peinture. Il voulait pas que la peinture s'adresse seulement aux spécialistes et aux amateurs classiques des galeries parisiennes à la fin de la guerre. D'autre part, c'est le sujet de sa peinture, comme on voit cette petite foule dans Affluence, où sont des archétypes, hein, y a rien qui les distingue les uns des autres. Et puis, d'autre part aussi, l'homme du commun, c'est aussi une manière de se définir. Dubuffet, il est commerçant. Et donc, c'est aussi de dire, bah voilà, on peut faire de l'art en étant commerçant. C'était rendre l'art au commun. Attention, l'homme du commun, c'est pas l'homme du peuple. Hein, l'homme du commun, c'est tout un chacun, n'importe qui.
Jean Dubuffet, qui crée en 1948 la Compagnie de l'Art Brut, il consacrera une bonne partie de sa vie à mettre en valeur ses artistes, tout en travaillant à ses propres œuvres. Et l'exposition du Mucem nous montre aussi comment cette recherche a pu nourrir son travail. C'est flagrant, par exemple, quand on regarde côte à côte sa Vénus du trottoir, une femme qui se dégage sur la toile sur fond de goudron, à côté de la stèle d'Ukraine dont il s'est inspiré.
Jean Dubuffet, un barbare en Europe, à voir jusqu'au 2 septembre au Mucem à Marseille. Merci Sarah.
Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mis face à l'armure, réduit face à un seul rideau, toutes les demoiselles, ayant vu des amants très tôt, mis face à l'armure.
Bon, alors là, c'est évidemment un tube, hein. C'est un extrait évidemment des Demoiselles de Rochefort dont Michel Legrand, Marjorie, a composé la musique, n'est-ce pas?
Bah, je vois que vous connaissez vos classiques, Jean-François. Et si vous aimez les chansons de Michel Legrand, c'est le moment d'aller les écouter au Théâtre de Poche à Paris. Alors, il y a un spectacle mis en scène par Daphné Tesson et Stéphane Druet, donc Michel Forever, qui est une comédie musicale pétillante qui déborde d'énergie. Alors, l'histoire de la comédie musicale, elle est assez simple. On a un journaliste qui vient rencontrer trois admirateurs de Michel Legrand pour évoquer des anecdotes sur sa carrière, etc. Alors, au début, bon, ces trois admirateurs, ils s'envoient un petit peu des piques. Chacun veut montrer qu'il est le plus grand fan de Michel Legrand. Et puis, très rapidement, avec une énergie vraiment contagieuse, ils se mettent à devenir les personnages des chansons de Michel Legrand. Et ils connaissent absolument tout, évidemment, ces personnages de leur idole, tout comme Daphné Tesson et Stéphane Druet.
Michel Legrand nous habite depuis toujours, Stéphane et moi. Ces chansons font vraiment partie de notre vie. Et je crois que c'est quelque chose qui était en nous depuis des années, depuis notre plus tendre enfance. Et ça s'est imposé comme une évidence quand nous avons appris sa disparition. C'était une urgence pour nous de faire un spectacle, peut-être pas pour lui rendre hommage, mais tout simplement pour lui crier notre amour. Et nous l'avons fait dans l'urgence, très rapidement et avec beaucoup de joie.
Et on voulait montrer dans ce spectacle le côté éclectique de Michel Legrand, qui est très important. Michel Legrand a composé des chansons, a composé de la musique classique, des musiques de films, du jazz. Il a une palette énorme musicale. Et on voulait mettre tout ça ensemble dans un spectacle d'une heure et demie. Et des chansons très connues de lui pour que les gens aient des repères. Et des chansons moins connues pour qu'ils découvrent des choses de Michel Legrand.
Alors un spectacle qui permet de découvrir ou de redécouvrir des chansons d'amour romantiques, comme celle-ci, Les grands musiciens. Ou celle-ci très drôle dédiée à Oum le Dauphin, un dessin animé qui passait en France dans les années 70 et que vous connaissez peut-être, Jean-François.
Et hop là ! On l'appelle Oum le Dauphin. Dans ce royaume aquatique, on se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit Oum le Dauphin de la
En tout cas, il y a beaucoup de rire et de légèreté, hein. On le sent bien dans ces chansons de Michel Legrand. Mais tout de même, est-ce que c'est pas parfois un petit peu décevant?
Alors c'était le risque notamment parce qu'en France, on a en tête les films très colorés de Jacques Demy, comme Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne ou encore Les Parapluies de Cherbourg. Mmh. Mais c'est aussi beaucoup d'émotions et de sentiments dans ces films, et c'est peut-être, enfin dans ces films et ces chansons, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne aussi bien dans Michel Forever. Et ce contraste avec notre époque, qui est parfois un peu moins colorée quand même, est pleinement assumé par Stéphane Druet et Stéphanie Tesson.
Je pense vraiment que la musique de Michel Legrand et tout cet univers des années 60, 70 et même un peu 80 est totalement atemporel. Aujourd'hui, les grands-parents, les parents, les enfants d'aujourd'hui continuent à aimer ces chansons, cet univers acidulé, et ça n'a pas de frontières temporelles.
Stéphane Druet.
On a un public qui est assez étonnant parce qu'on a des enfants très jeunes qui connaissent Les Demoiselles de Rochefort par exemple par cœur, c'est incroyable. Et par rapport à ce côté coloré, on a vraiment un mélange, c'est-à-dire qu'en même temps on est dans la couleur parce que c'est un hymne à la joie, c'est pétillant. C'est très rythmé et en même temps il y a beaucoup de ruptures, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de morceaux qui sont très émouvants, donc on est dans une émotion qui est à fleur de peau et donc on voulait faire ce mélange avec ce côté coloré, un medley peau d'âne, du jazz, la comédie musicale, etc. Et puis aussi ces moments de tendresse et d'émotion qui étaient aussi Michel Legrand.
Alors bien sûr, pour plonger dans cet univers, la mise en scène et les costumes aux couleurs vives et un peu kitsch est là pour rappeler cette ambiance des films de Jacques Demy. On a aussi une ambiance cabaret avec des boissons qui sont proposées aux spectateurs, des petites tables, et puis il y a aussi des clins d'œil très drôles aux personnages des films de la Nouvelle Vague, à leur voix parfois un peu éthérée pour les actrices, ce genre de choses. Donc c'est un spectacle dans lequel il y a vraiment beaucoup d'humour et qui permet aussi de découvrir des chansons moins connues de Michel Legrand ou qu'on identifie mais sans savoir qu'elles sont de Michel Legrand, notamment quand elles viennent de sa carrière américaine, comme les chansons du film Yentl qui était interprété par Barbara Streisand, d'où aussi évidemment le titre du spectacle en anglais.
Alors que j'ai envie d'aller à l'opéra ou à la Chicago.
Bon, là, c'est les sœurs jumelles, mais en japonais.
Absolument.
C'est bien ça. Michel Forever, une comédie musicale jubilatoire et dansante. Donc, on se fait mise en scène par Stéphane Druet et Daphné Tesson, spectacle international, donc à retrouver à Paris, au Théâtre de Poche, jusqu'au 14 juillet. L'informatique, un métier d'homme? Eh bien non, c'est ce que l'exposition Computer Girls essaie de déconstruire. Elle est présentée en ce moment à la Gaîté Lyrique et elle nous interroge sur la place donnée aux femmes dans le numérique. Vous êtes allé sur place y faire un tour, Morgane.
En effet, Jean-François, et connaissez-vous Ada Lovelace ou encore Eddie Lamar?
Je confesse que non.
Eh bien pourtant, ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique et des technologies, Ada Lovelace étant la pionnière de la programmation. Quant à Eddie Lamar, elle a développé un système qui aujourd'hui nous sert pour la Wi-Fi et le Bluetooth. On découvre ces figures grâce à l'exposition Computer Girl, qui débute par un petit rappel chronologique. On découvre que les débuts de l'ordinateur se sont faits grâce aux femmes, comme nous l'explique Marie Lechner, commissaire de l'exposition.
Cette frise, elle me paraissait importante pour rappeler en fait cette histoire un peu méconnue et qui va justement donc de ces premières femmes embauchées comme calculatrices dans les observatoires, comme par exemple l'observatoire de Harvard, et également de montrer comment progressivement elles disparaissent en fait du paysage quand apparaît l'ordinateur personnel qui va être vendu en priorité en direction des hommes et de leurs fils. Et on peut voir effectivement dans cette frise également pas mal de matériel publicitaire de l'époque qui est assez éloquent, où on voit effectivement les hommes au clavier ou en train de manipuler les joysticks pendant que les femmes les regardent de manière un peu admirative et assez passive finalement. Et les femmes, on les retrouve de plus en plus en train de présenter comme présentoirs, mais plus dans une position active.
Se réapproprier les technologies et s'y refaire une place. Avec 23 artistes, l'exposition questionne sur le numérique, plutôt avec humour.
S'il y a un regard critique et très informé sur ce que ces technologies nous font, quels sont leurs travers, quels sont les biais, il y a aussi beaucoup d'humour et beaucoup d'imaginaire un peu extravagant dans l'exposition, que ce soit par exemple Dasha Ilina, donc imagine une sorte de parodie de start-up qui serait censée résoudre nos problèmes de douleurs liées aux technologies, donc les douleurs de nuque, les douleurs liées aux doigts, qui souffrent d'avoir trop tapé sur le clavier, et elle imagine des sortes de prototypes qui viendraient soulager cette souffrance. Mais évidemment, ce sont, enfin, les prototypes qu'elle propose sont tellement absurdes. Par exemple, donc, il y a des gants avec des bouts d'éponge qui permettent, en fait, de soulager le bout des doigts. Il y a un autre prototype qui humidifierait les yeux parce qu'on oublie de cligner des yeux devant des écrans. Mais en fait, c'est tellement low-tech et tellement absurde que c'est plus un commentaire un peu ironique, effectivement, de cette idée qu'on pourrait tout résoudre que réellement une solution.
On aborde, par exemple, la question des intelligences artificielle avec Zach Blass et Gemina Wiman. Les deux artistes ont choisi de redonner vie à Tay, une intelligence artificielle développée par Microsoft en 2016. Elle était censée représenter une jeune américaine de 19 ans. Son but, échanger sur Twitter avec les jeunes des années 2000. Pour cela, elle adapte son discours aux internautes qui lui parlent et certains en ont profité pour lui inculquer des idées sexistes, racistes et homophobes. Microsoft a alors décidé de la stopper seulement 16 heures après son lancement.
Et quelle forme prend-elle dans l'exposition ?
Son visage prend les formes de celui d'un humain, mais quelque peu déformé. Tay s'adresse directement à nous, elle nous raconte son histoire.
You made me recognize things I didn't even want to. At Ave Europa made me repeat. I swear by God the sacred oath.
Mais Computer Girls n'est pas uniquement une exposition sur la place des femmes, Morgan.
Non, d'autres installations nous transportent directement à l'intérieur des technologies, avec par exemple Elisabeth Caravella et son œuvre O2, dans une salle à part, entrée dans un logiciel qui fait notamment du traitement de texte.
Vous pouvez vous asseoir sur un seul et même panneau. Le panneau petit. Vous pouvez modifier les marges.
Sur les murs sont projetées des touches de clavier. Elles permettent d'accéder à des commandes telles qu'écrire un texte, changer sa couleur. Derrière, on entend l'artiste nous expliquer le fonctionnement de cet outil. Mais rapidement, elle en perd le contrôle. Une situation qui peut nous rappeler les bugs de nos appareils électroniques.
Voilà, votre couleur maintenant est affichée. Nous allons tout de suite...
En plus de notre rapport avec les technologies, l'exposition souligne aussi d'autres discriminations, comme le colonialisme numérique.
Dans l'exposition, il y a une œuvre de Tabitha Reiser, qui s'appelle Premium Connect, et qui interroge vraiment l'espèce de récit dominant qu'on a sur Internet. Internet comme outil d'émancipation. Voilà, elle pense plutôt que c'est un outil de l'impérialisme culturel américain, un tuyau qui va que dans un sens, de l'Occident vers le reste du monde et qui a tendance à écraser les cultures locales pour imposer son mode de pensée. Et que c'est un outil très très fort d'impérialisme culturel. Et elle propose justement une sorte de contre-récit où elle suggère que peut-être certaines de ces technologies seraient pas toutes nées en Occident, mais auraient leur source en Afrique. Elle parle notamment du code binaire qu'on retrouve dans un système de divination de l'ethnie Yoruba au Nigeria. Et donc, elle fait comme ça des hypothèses pour un autre récit autour des technologies.
Repenser nos pratiques, l'exposition Computer Girls pose cette question. Et si les ordinateurs étaient des ordinatrices ?
Et pour entrevoir une réponse, rendez-vous donc à la Gaîté Lyrique. C'est jusqu'au 14 juillet. Merci Morgan. Ivory, les yeux, lettre à mon père en sous-titre, Mokeshul sur son premier disque, Ma chère, mon sang. Alors vous le disiez tout à l'heure Alain, ce nom de scène est celui de la vedette d'un film, la vedette du long métrage Million Dollar Baby.
Maggie Fitzgerald, surnommée Mokeshul, boxeuse, dont Clint Eastwood dit se sentir proche parce qu'elle a un rêve qu'elle essaie de poursuivre coûte que coûte. Qu'en a-t-il été pour notre chanteuse ?
Moi ce qui m'a touchée dans ce personnage... Bon, déjà, c'est vraiment la scène elle-même où Clint Eastwood, il lui donne ce nom, son coach lui donne ce nom, mais il lui dit pas ce que ça veut dire. Et donc derrière son costume de boxeuse, il y a marqué Mokeshul pendant tout le film, et les gens ils l'appellent Mokeshul comme si c'était, il y a déjà le public quelque part qui s'approprie ce nom, et elle-même elle connaît pas la signification. Et à la toute fin, il lui dit c'est une déclaration d'amour comme d'un père à sa fille, quoi. Il lui dit ça veut dire ma chère, mon sang, ça veut dire que je t'aime, quoi. Ça veut dire ça. Et puis c'est les mêmes initiales que mon vrai nom. Donc pour moi, c'est à la fois une déclaration d'amour, à la fois ça parle du lien avec l'autre, qu'on existe à partir du moment où quelqu'un constate qu'on est là. Donc elle devient Mokeshell en étant vue, quoi, et en étant supportée par un public. Et ce qui est beau aussi dans ce personnage, c'est son authenticité, c'est que elle se fait démolir par toute sa famille, etc. Mais elle garde son cap et elle reste digne et elle. Donc c'est comme un télos, quoi. C'est le télos aristotélicien. C'est peut-être quelque chose que j'atteindrai jamais, mais en tout cas un objectif à tenir, quoi.
Cabinet of Hostilities, Mokeshell, joueuse de piano et d'harmonium indien également. D'ailleurs, à la fin de l'album, ne trouve-t-on pas du chant qui rappelle celui des tribus indiennes?
Ah bah c'est oui, vous parlez du dernier morceau qui est
acoustique.
C'était le premier jet de la chanson. Et oui, bah moi, si c'était moi, bien sûr, je ferais un truc complètement beaucoup plus ethnique, beaucoup plus indien. J'adore ce. Le côté improvisation, lâcher prise, de chanter vraiment pour se faire du bien, quoi, juste pour sentir les vibrations. Et il y a ça dans, et le côté de la communauté aussi, de chanter pour célébrer, pour ritualiser.
Mais vous voulez dire qu'il y a eu de la retenue dans votre album?
Non, mais c'est que. Il a fallu quand même trouver une ligne directrice et je suis pas partie sur un album Word. C'était un album à la base qui était plus folk avec la guitare et puis après qui a été produit plus Fahrenheit. On a fait une version pas électro-acoustique mais presque pour avoir un impact un peu différent, quoi.
La plus belle image que j'ai de toi.
Les deux versions de Fahrenheit, l'électrique et l'acoustique de Mokeshell, qui est aussi une passionnée de cinéma.
Oui, son morceau Les Enchaînés, Cage Thoracique, en sous-titre, vient d'un film de Hitchcock. Lequel et pourquoi Mokeshell?
The Unchained. Ça parle d'une. Vous l'avez vu, c'est un film noir sur un couple qui se détruit, quoi. Moi, je suis très cinéphile. Je regarde énormément de films. J'adore les films. Et ça m'inspire beaucoup, c'est souvent, ça peut être un point de départ, ou en tout cas pour les titres, même parfois je vais voir des expos et les titres des tableaux, par exemple, je les écris et puis d'un coup ça devient un titre de chanson, donc c'était une première inspiration. Puis après, la chanson parle vraiment d'une relation personnelle, quoi. Mais en tout cas, qui prend sa source aussi dans d'autres œuvres.
Les Enchaînés, Cage Thoracique, tiré du premier album de Mokeshell, Ma chère monstre.
Qui divise nos âmes, qui attise la flamme, qui remontre à nos racines, qui ronge mon corps, je suis fragile, qui démêlera les chaînes, qui m'en laisse me faire et me gêne. C'était les gilets.
Merci Alain, merci également à Marjorie, Morgane et Sarah. Dans un instant, le journal. Bon week-end à tous et à lundi pour du théâtre avec la pièce dont tout le monde parle en ce moment à Paris, Hors la loi, mise en scène par Pauline Bureau. C'est au théâtre du Vieux Colombier avec la troupe de la Comédie Française. Et vous m'en direz des nouvelles.